Commençons par un mot de prière ensemble. Esprit Saint, tu es le vent de la vie, celui qui nous tourne vers la vie, celui qui nous guide vers la vie éternelle. Montre-nous toujours mieux le chemin de Jésus, le chemin qui fait passer de la mort à la vie. Le chemin qui nous permet d'annoncer aussi la vie éternelle, ce que Jésus, tu as appelé la bonne nouvelle, ce souffle de vie. Merci Seigneur et guide-nous alors que nous étudions l'Évangile, la bonne nouvelle selon Marc, qui nous pousse vers la vie, qui nous montre comment être vainqueur de la mort. Merci Seigneur Jésus de nous guider en ce temps. Amen. Alors l'Évangile, finalement, est une histoire très simple. Mais si vous êtes un peu comme ce que j'ai été quand j'étais jeune chrétien, quand j'avais 25, 27 ans, je me disais, bonne nouvelle, mais qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Ah oui, d'accord, la bonne nouvelle, c'est les quatre évangiles. Bon, je savais répéter que c'était ça, mais comprendre finalement, avec simplicité, qu'est-ce que Jésus vient faire? Qu'est-ce qu'il vient nous annoncer? La réponse, finalement, est beaucoup plus simple que ce que je croyais. Elle est simplement, Jésus est venu nous montrer comment avoir la victoire sur la mort. Dans notre vie, la question de la mort est la question avec laquelle nous nous battons tous les jours. Cette question de savoir comment vaincre la mort est la question fondamentale. Et nous avons des stratégies, on a des plans. Alors un des plans qu'on a pour essayer de vaincre la mort, c'est une famille. On se dit, si j'ai des enfants, mes enfants vivront après ma mort. C'est une victoire. Ça va permettre que ce que moi j'ai vécu va se transmettre après que je meure. Il est très difficile pour un être humain de se dire, ce que je fais n'a aucun impact sur les autres. Si une personne va vouloir devenir une maîtresse, c'est qu'elle veut un impact sur les enfants. Son but n'est pas juste de gagner de l'argent, même si c'est un point important. Travailler, par exemple, pour Anton, pour des panneaux solaires, tu voudras un impact. Tu voudras que ça... Et tu ne resteras pas dans un travail où il n'y a pas un impact sur le long terme. On est d'accord? Non? Et ça sera la même chose. Et des fois, nos plans de vie, nos espoirs, les enfants aussi, c'est le désir d'aller plus loin que nous, d'aller au-delà de nous. Et c'est une forme de victoire que nous voulons. Mais parfois, nos espoirs sont cassés. Parfois, nos espoirs sont brisés. Au travail, tout d'un coup, on est dans un placard où on ne peut plus évoluer. Pour un homme, ça peut être quelque chose de très frustrant. C'est quelque chose qui peut être désespérant parfois. Ça peut être à l'école, un enfant qui va redoubler, qui a l'impression qu'il ne peut pas se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est la vie aussi. Ça peut être une grand-mère qui n'a plus de contact avec des enfants et qui voit que tout d'un coup, elle est isolée de la vie. Ça peut être un couple qui est cassé. Ça peut être un enfant qui meurt. Alors qu'un parent, finalement, c'est dans l'autre sens. David disait, c'est pas normal que mon fils meure. Ça devrait être moi qui meure d'abord et non pas mon enfant. Et il disait, c'est dans le premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel que David dira ça. Il dira, quelque part ma vie est finie, mon fils est mort, maintenant c'est moi qui vais le rejoindre. Maintenant c'est moi qui me tourne vers la mort. Et Jésus est venu parler de ça. Il est venu parler de cette victoire sur la mort, de cette victoire sur tous nos projets qui ont échoué. Parce que fondamentalement, quand nos projets, certains ont échoué, c'est comme s'il y a une semence de mort en nous, une amertume, une dureté qui peut nous détruire, qui peut envahir toute notre vie jusqu'à nous écraser, jusqu'à nous rendre incapables d'espérer à nouveau vers le futur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans un peuple qui est plein d'une semence de mort. Cette semence de mort est liée au fait qu'ils ont été envahis par les Romains. Ils n'ont plus aucun espoir sur le long terme d'avoir un roi, de pouvoir épanouir leur spécificité en tant que peuple juif à nouveau. Ils sont un peuple qui est en train d'être écrasé. Et ce n'est que le début, après Jésus, 70 ans après la naissance de Jésus, le temple va être détruit. La nation d'Israël va être chassée partout. Pourtant, ils vont survivre. Le peuple des premiers chrétiens va être chassé partout. Et qu'est-ce qu'on va faire aux premiers chrétiens ? On va en faire de la nourriture pour lions dans les cirques. On va les tuer par centaines, par milliers. On va les humilier, on va les rendre esclaves. On va essayer de les détruire par tous les moyens. Et à chaque fois qu'on essaye de les détruire, eux ont compris la leçon de Jésus. Comment avoir la victoire sur la mort ? Qu'est-ce qui va se passer ? À chaque martyr, à chaque personne chrétienne qui va mourir, ça va être comme une graine qui pousse pour pouvoir porter du fruit. 10, 100 nouveaux chrétiens. Certains vont dire, oui d'accord, c'est l'histoire de l'Église. Non. Nous expérimentons ça dans certains pays en Afrique aujourd'hui, où on a des photos de martyrs de l'an dernier, d'il y a 6 mois, d'il y a 4 mois, des personnes, des jeunes. Vous voyez un jeune avec un beau regard et on vous dit, cette personne vient de donner sa vie pour Jésus-Christ. Il y a des pays dans ce monde où ça continue. Et en même temps que les personnes vous racontent ça, vous disent, ne les plaignez pas, à chaque endroit où il y a un qui est mort, il y a un groupe de prière qui est né. Des gens qui ont découvert Jésus, des gens qui ont commencé à se tourner vers cette nouvelle vie, vers cette victoire sur la mort au prix de leur vie. Qui ont compris que la victoire sur la mort n'est pas dans ce monde, mais elle se prépare dans ce monde. Et c'est le sujet de tout l'évangile, la bonne nouvelle. Et j'aimerais qu'on prenne la deuxième moitié de l'évangile de Marc et de voir comment Jésus est venu pour annoncer la victoire sur la mort et comment ses disciples ont du mal à l'accepter, comme nous avons du mal à l'accepter. Quand on a des échecs dans nos vies, on a du mal à accepter que Jésus nous offre une victoire. On voudrait la victoire maintenant. On voudrait une victoire dans cette situation présente qui est douloureuse. Et vous allez voir comment les disciples se battent pendant toute leur vie. On a vu la semaine dernière, au chapitre 8, est-ce que Laurence, tu pourrais nous passer à la prochaine... Voilà. Au chapitre 8, on a vu Jésus qui parle la première fois de la mort. Et à chaque fois que Jésus parle de la mort, vous allez observer, il ne dit pas la mort, et ensuite ça va être difficile. À chaque fois qu'il dit « je vais mourir », qu'est-ce qu'il dit juste après ? « Je vais ressusciter ». Il sait que les disciples, ils ne sont pas là pour apprendre à mourir, ils sont là pour apprendre à vivre, pour apprendre à avoir la vie en abondance, pour avoir une vie qui va avoir un impact sur le long terme, non seulement au niveau de leur métier, non seulement au niveau de leur famille, mais bien au-delà. Quelque chose qui est une victoire incroyable, une victoire qui est difficile à croire et que les disciples vont avoir à attendre jusqu'à la résurrection pour commencer à comprendre des points. Parce que jusqu'à la mort de Jésus, ils ont du mal à le croire. Ils se disent, non, ça, c'est pas possible. Première fois que Jésus parle de sa mort, Pierre vient le voir. Il le tire par la manche et lui dit, écoute Jésus, ça va pas t'arriver. Non, c'est pas possible. Tu fais des guérisons, tu te délivres du pouvoir, du péché et de la mort. Non, tu vas pas mourir. C'est Pierre, le premier des disciples, qui fait ça. Et vous connaissez l'histoire. Jésus se retourne et lui dit, arrière de moi, Satan, c'est le plus proche de ses disciples, hein. Arrière de moi, Satan, tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, elles sont humaines. Les autres disciples ont entendu. Donc ils savent, eux, qu'il ne faut pas corriger Jésus quand il parle de ça, parce que si on le corrige, qu'est-ce qui va nous arriver ? Et on verra dans l'histoire comment Pierre et Judas sont aux deux extrêmes des disciples. Les deux vont être tentés. Les deux vont tomber. Mais un seul des deux va se relever et va croire à la bonne nouvelle. Va s'accrocher à cette bonne nouvelle de la victoire sur la mort. On peut se dire, bon ben ça y est, les disciples ont compris, quand Jésus parle de sa mort et sa résurrection, bon ben ça va arriver. Ils vont comprendre le premier élément. Donc, dans l'histoire suivante, au chapitre 9, Laurence, tu peux passer au... Dans le chapitre 9, il y aura la transfiguration de Jésus. Ça, les trois disciples qui sont avec lui, ils adorent. Ils trouvent que c'est génial, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il y a Jésus entouré des deux plus grands prophètes, Élie et Moïse. Ceux qui ont vaincu la mort. Élie, il n'est pas mort, il est monté dans un char de feu. Qui d'entre vous aimerait bien qu'à la place de la mort, à la place des plus grands échecs dans votre vie, il y ait un char de feu qui vienne vous prendre et hop, il vous emmène avec tous vos espoirs jusqu'au ciel?
C'est sûr que c'est une mort sans douleur. Hein.
C'est une mort sans douleur apparemment. Et Jésus, ensuite, est avec Moïse, celui dont on ne sait pas où est sa tombe. On ne sait pas s'il est vraiment mort. Le seul mot qui est dit dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, c'est qu'il est mort comme dans un baiser, comme sur la bouche de Dieu. On dit techniquement, le mot à mot, c'est « il est mort sur la bouche de Dieu ». Alors, vos traductions, elles vont dire « il est mort selon la parole de Dieu ». Non, non, il n'est pas mort selon la parole de Dieu, il est mort sur la bouche de Dieu. Lui qui était la parole de Dieu, la bouche, le proclamateur de la parole de Dieu, il était la bouche de Dieu pour le peuple. Il est mort sur la bouche de Dieu. Et le commentateur le plus connu du judaïsme, qui s'appelle Rachid, disait « il est mort comme dans un baiser ». Un baiser d'amour, mais sa mort n'était pas une vraie mort. Et c'est pour ça qu'ils vont être avec Jésus, ils sont ressuscités. Ils sont encore vivants au temps de Jésus. N'oubliez pas. Et Dieu va dire « c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, obéissez-lui, écoutez-le ». Juste après, les disciples ont un casse-tête, ils ont un démon qu'ils n'arrivent pas à chasser. Jésus leur a montré l'exemple juste au chapitre précédent. Vous vous rappelez comment il leur a montré l'exemple? Comment faire quand ça ne se passe pas la première fois? Qu'est-ce qu'il a fait? Au chapitre 8, il y avait eu une guérison qui avait été un peu différente chez Jésus. Il y avait une aveugle au chapitre 8, et quand Jésus lui impose les mains, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas bien, ça se met en deux temps. Donc Jésus leur montre, vous savez, même pour le Fils de Dieu, même pour le Messie, même pour Jésus, il y a des fois, il y a certaines guérisons, ça prendra plusieurs étapes. Et là, ils ont une guérison en plusieurs étapes, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont cru que c'était une technique, on dit les mots qu'il faut et ça marche. Et Jésus va leur dire, non, 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 c'est la prière. Et certains originaux disent, c'est la prière et le jeûne qui sont les points clés. Ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de relation avec Jésus et de fidélité à Jésus. La miracle, c'est Jésus qui les fait toujours à travers nous. Si nous sommes en communion profonde avec Jésus, si on croit, ah moi j'ai compris comment ça marche, j'ai juste à faire ce qu'il faut, dire les paroles qu'il faut. Les miracles, c'est toujours Jésus qui les fait et il aime les faire à travers nous. Et Jésus va chasser le démon et ensuite va enseigner ses disciples parce qu'il continue à les enseigner, à les préparer au ministère. Deuxième annonce de la mort. Jésus leur dit, je vais mourir et... À chaque fois, il combine les deux, la mort et la résurrection. Quand on combine la mort et la résurrection, on dit deux choses. Dans ce monde, je vais mourir, mais sur le long terme, cette mort n'est qu'une étape. Elle va ouvrir à une nouvelle étape, où il y aura victoire pour de bon. De quoi vont parler les disciples juste après que Jésus a parlé de sa mort? Ils vont se poser quelles questions?
C'est qui le chef après?
C'est qui va être le chef après? C'est qui va venir après moi? Après Jésus. Comme ça, on va être le boss et il n'y aura pas vraiment la mort parce que nous, on sera, même si Jésus meurt, il y a un nouveau qui devient le chef et puis il y aura d'autres qui vont venir. Je mentionnais au niveau historique il y a quelques jours que c'est pratique, c'est une façon pour un groupe d'essayer d'avoir une impression d'immortalité. On remplace celui qui part. Il y avait un groupe dans l'armée qu'on appelait de l'Empire Perse. L'Empire Perse, c'est ceux qui étaient avant les Grecs, si vous voulez. C'était à peu près vers 500 ans avant Jésus-Christ. Et cet empire avait une armée très puissante qui régnait depuis Israël jusqu'à l'Égypte, jusqu'à l'Inde quasiment. Et dans cette armée, ils avaient un groupe qui marchait un petit peu comme les disciples voudraient marcher. Ils avaient 10 000 personnes, on les appelait les immortels. Pourquoi immortels? C'était pas des soldats qui mouraient jamais. S'ils étaient 10 000, s'il y en avait un qui mourait, on remplaçait toujours par un autre. Donc c'était un groupe finalement qui était toujours de la même taille, toujours 10 000. Les immortels, on les appelait. Parce que l'être humain veut essayer de trouver des façons de vaincre la mort. Et on essaye, par toutes les forces, de trouver une réponse à cette question importante de la mort, de l'échec et de la mort dans nos vies. L'échec de nos plus grands plans, l'échec de nos plus grands désirs. Comment est-ce qu'on va y répondre? Et c'est là qu'on a la question, est-ce que l'évangile a pénétré au fond de ma vie ou est-ce que c'est cette vie qui est encore mon espoir ultime? C'est une question difficile, mais une question très importante. Et Jésus, quand on lui parle de cela, de dire, quand il entend que ses disciples discutent sans qu'il soit là, de qui est le plus grand, il va leur dire quelque chose. Est-ce que Sandrine, tu pourrais lire le verset 35, s'il te plaît ? De chapitre 9, verset 35. Et Anton, je vais te demander de prendre le verset 37 du chapitre 9. Est-ce que tu peux lire le verset 35 ?
Jésus s'assit, appela les douze et leur dit : si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous.
Aïe ! Les disciples, eux, ils se disent : on va maintenir le groupe, donc il faut un chef. Quel est le souci de Jésus ? Que celui qui est responsable, qui veut être important, soit un serviteur. Soit celui qui est serviteur, qui aide les autres, qui ne se met pas en premier, mais qui les met les autres en premier. C'est l'inverse des normes de l'époque. Et juste après, il va leur dire encore plus quelque chose de choquant. Anton, est-ce que tu pourrais lire le verset 37 ?
Quiconque reçoit mon nom, un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque le reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé.
Merci. Quiconque reçoit un de ses petits-enfants en mon nom. En mon nom, ça veut dire au nom de Jésus, dans la foi. Ça pourrait être vraiment accueillir quelqu'un au nom de Dieu et de l'encourager, de l'aider. Il dit, c'est moi qui le reçois. Nous, on veut les chefs parce qu'on a l'impression que le pouvoir et la protection de la destruction va être lié au plus puissant. Imaginons que, par exemple, Dominique veuille protéger son entreprise. Il va aller au plus puissant de la Réunion pour demander la protection. Alors, il y a des techniques qui sont légales, d'autres qui ne le sont pas pour demander la protection. En espérant protéger par exemple une entreprise ou une maison ou un champ, on va aller vers les plus hauts. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Vous voulez vaincre la mort ? Vous voulez tenir à long terme ? Préoccupez-vous d'être serviteur. Préparez-vous à mourir. Préparez-vous à mourir finalement. À ne pas être protégé de toutes les difficultés, mais au contraire, par la foi, d'accepter les difficultés et de croire que Jésus et que Dieu va vous protéger. C'est fou comme message, c'est l'inverse. Eux veulent la protection de la mort, veulent la pérennité, veulent la longue durée. Jésus parle d'humilité, de petitesse et d'être prêt à souffrir. Ensuite, au chapitre 10, ça va continuer. Est-ce que Laurence, tu pourrais aller passer au graphique suivant ? On arrive au chapitre 10. Au chapitre 10, le divorce n'est pas ce que Dieu veut. Le divorce n'est pas ce que Dieu veut parce qu'il veut qu'un couple humain soit une représentation de son amour fidèle, durable pour la vie. Maintenant, dans ce monde, il y a des gens qui vont briser des mariages, qui vont choisir certaines fois avec légèreté et naïveté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le point à se rappeler. Jésus le dit avec clarté et dit « ce n'est pas la volonté de Dieu ». Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils soient unis pour la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est détruire un plan de Dieu que de détruire un mariage. Dans l'évangile de Matthieu, il y aura une condition, et on peut comprendre une ou deux conditions où ce mariage peut être détruit, c'est s'il y a infidélité, qui est une rupture, ou bien si par exemple il y a violence, s'il y a quelqu'un, un des deux, qui détruit l'autre. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ton prochain te détruit physiquement et te bat, on pourra comprendre que ce sera une façon de tolérer la divorce, mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait vraiment réconciliation et harmonie dans le couple. Mais ça peut arriver. Et c'est sous une certaine forme une mort pour un être humain de voir le projet d'une vie détruit. Et face à cette mort, il faudra l'évangile au plus profond de notre vie pour être capable de faire face à cet échec. Ensuite, il y a les petits-enfants qui viennent à Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent les apôtres ? Laissez-le tranquille, il fait quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui est difficile dans nos vies parce que des fois, ben, on a des choses, même quand il y a une prédication, il y a un petit enfant qui va venir et on aura envie de dire « Fiche-lui la paix, le prédicateur est en train de prêcher ». D'un côté, on pourrait dire « Oui, il faut qu'on continue », mais de l'autre côté, faites attention, rappelez-vous de l'enseignement de Jésus, il faut qu'on gère ça, on ne peut pas le mettre à la poubelle cet enseignement. Et j'aimerais te demander, Laurence, de nous lire les versets 14 et 15 du chapitre 10. Et Yvonne, pendant ce temps, tu prépares le verset 27 de ton côté. Colline, ça sera le 31 pour toi. Laurence, tu pourrais lire 14 et 15?
Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis, pardon,
Laissez les petits venir à moi. Quiconque devient comme un petit enfant entrera dans le royaume de Dieu. Les enfants, au temps de Jésus, c'est ceux qui meurent le plus vite. C'est ceux qui peuvent être battus. Un père romain avait droit de vie et de mort sur ses enfants. En général, les Romains n'aimaient pas trop avoir des filles, surtout parmi les premiers-nés. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles qui ont été tuées dans l'Empire romain. Combien, c'est difficile à dire. Mais les parents avaient droit de vie ou de mort. Dire être comme un petit enfant, c'est dire être à la merci de la mort du jour au lendemain. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Si vous voulez la vie éternelle, cette vie puissante qui va jaillir pour l'éternité, acceptez de mourir. Acceptez l'échec. Acceptez que dans ce monde, on puisse vous écraser comme on écrase une punaise ou une fourmi. Vous vous rendez compte du message aberrant que Jésus est en train de dire, c'est pas les petits-enfants d'aujourd'hui à qui on achète des jouets quand ils viennent au magasin. C'est des petits-enfants qui meurent de maladies très fréquemment. C'est des petits-enfants qu'on peut tuer. C'est des petits-enfants qui sont à la merci de beaucoup de choses. Et Jésus dit, soyez comme des petits-enfants. Soyez prêts à ce que la mort vous prenne parce qu'il y a une vie plus grande qui est en train de se préparer. Une victoire sur la mort qui est plus grande. Une autre façon de vaincre la mort, c'est l'argent. Avec l'argent, on peut se protéger de la mort. Il y avait des gens comme Michael Jackson, il s'était fait un caisson à oxygène, que ça coûtait très cher, pour qu'il puisse vivre plus longtemps. Et il dormait souvent dans un caisson à oxygène pour essayer de diminuer le vieillissement de ses cellules. Vous savez quoi ? Michael Jackson, il est mort. Et il n'est même pas mort vieux, il est mort jeune. Et il y avait ce jeune homme qui était fidèle à Dieu, mais qui avait ce sorte de matelas contre la mort, cette protection, parce que quand on a beaucoup d'argent, on peut payer des médecins, on peut se protéger plus facilement des maladies. Sous une certaine façon, les gens plus riches peuvent se protéger de la mort, jusqu'à un certain point. Et le moment vient où la mort viendra. Et ce jeune homme, quand Jésus lui dit, d'abord d'être fidèle au commandement, ce jeune homme lui dit, j'ai fait tout ça. Jésus lui dit pas, tu ne vas pas être avec moi, mais il lui dit une phrase. Est-ce que tu veux être parfait? Et il lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux vraiment appartenir complètement à Dieu, Jésus voit que dans ce cas-là, ce gars-là, d'un côté il fait ce que Dieu lui demande, mais de l'autre côté, son matelas financier est un peu sa sécurité. Il se dit, je vais tenir parce que j'ai ce matelas de sécurité. Je ne vais pas être choqué par la mort parce que ça va m'amortir le choc. Ça va me protéger. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et suis-moi. Et lui ne va pas suivre. Ensuite, Jésus va dire qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Pour que vous acceptiez la vie éternelle, il faut que vous acceptiez que vous n'avez pas de technique autre pour vivre éternellement. Est-ce que vous investissez pour la vie éternelle dans des enfants, dans un métier, dans de l'argent, dans une personne, dans l'orgueil ? Par exemple, on pourrait dire que quelqu'un comme Steve Jobs va essayer de vivre éternellement à travers ses outils, que ce soit les iPhones, les iPods et tout ça. Vous savez quoi ? La marque Apple, un jour, elle va mourir. Au mieux, si elle est elle a un succès immense, peut-être dans 50 ans. Peut-être dans 20 ans. Regardez Microsoft, qui est en train de diminuer petit à petit. Ils sont en train de perdre du terrain. C'était la plus grande firme informatique il y a 10 ans. Tous ces empires financiers passent. Les empires d'il y a, comme l'empire perse, ils duraient pendant 500 ans. Nos empires modernes, ils durent 100 ans quand ils sont très solides. 50 ans, 20 ans. Jésus, il est en train de leur dire, si vous voulez vraiment vivre cette vie éternelle, est-ce que vous mettez votre espoir ailleurs ? Et j'aimerais vous mettre au défi pendant cette journée aujourd'hui de vous dire, où est-ce que je mets mon espoir? Est-ce que je crois vraiment à la vie éternelle? Ou est-ce qu'il y a dans ce monde quelque chose qui, si cela échouait, je dirais, ma vie est cassée. Mon espoir est détruit. Il n'y a plus aucun espoir pour moi. Est-ce que votre espoir est vraiment dans la vie éternelle? Est-ce que vous pouvez recevoir cet enseignement difficile de Jésus? Et Jésus, il ne va pas le dire qu'une fois. Tout comme moi, je ne vais pas vous le dire qu'une seule fois. Je ne suis pas en train de vous dire « Détruisez votre métier, brisez vos couples et vos familles. » Je suis en train de vous dire « Est-ce que vous avez votre espoir en Jésus et dans la vie éternelle? Êtes-vous prêt à être des gens qui êtes humiliés dans ce monde, comme des petits enfants? Êtes-vous des personnes qui ne s'accrochaient pas à l'argent? Ou est-ce que vous avez des idoles, des choses dans votre vie et vous dites « Si ça s'est cassé, ma vie est cassée. » C'est la question que Jésus passe en revue chaque fois. Troisième passage, on repasse la machine. Je vais mourir et je vais ressusciter. Il essaye de donner un peu des détails, Jésus, parce qu'il sait déjà ce qui va arriver. Je vous donne des détails pour que vous vous y prépariez, Jésus leur dit. Ça va être aux mains des gentils que je vais être livré, au nom des non-juifs, donc une humiliation la plus grande. Et Jésus, pour leur montrer la victoire sur la mort, ne va pas avoir une mort dans un lit, ne va pas avoir une mort au fil de l'épée, ne va pas avoir une mort méprisante. Il va avoir la mort la plus méprisante de l'époque, la mort la plus insultante qu'on ne faisait jamais souffrir par un soldat romain, qu'on ne faisait jamais souffrir par une personne qui était partie, si vous voulez, qui était citoyen romain. La mort sur la croix, c'est la mort pour les esclaves, la mort d'humiliation, la mort d'insulte. On met les gens tout nus en haut sur une croix et on les laisse agoniser, on ne les tue même pas. On les laisse mourir à petit feu en se moquant d'eux. Tous les gens peuvent venir leur cracher dessus, se moquer d'eux. C'est ce qui arrivera avec Jésus. Et Jésus les prévient, ses disciples, leur dit « Attention, votre boss, votre chef, c'est comme ça qu'il va mourir. » Et Jésus, après avoir dit ça, il va y avoir, dans l'évangile de Matthieu, on dit que c'est la mère parce que, semble-t-il, peut-être la mère a essayé d'influer. Mais deux de ses disciples, les trois disciples les plus proches de Jésus, Jésus c'est qui déjà? Pierre? Après? Jacques et Jean. Première fois, Pierre, il a déjà pris sa claque. Il sait qu'il ne faut pas qu'il reprenne Jésus quand il lui dit qu'il va mourir et ressusciter. Maintenant, c'est au tour de Jacques et Jean. Jacques et Jean, ils disent « Ok, d'accord, tu vas mourir, d'accord, faut pas se préoccuper qui est le plus grand, bon ben... Mais tu as quand même parlé de résurrection, on comprend pas très bien ce que c'est, mais bon, imaginons. Est-ce que quand tu ressuscites, on pourrait être les chefs avec toi? D'accord, sur terre, il faut pas demander d'être le plus grand, faut être serviteur, mais est-ce qu'on pourrait être premier ministre et ministre de l'intérieur quand tu seras au ciel? Est-ce qu'on pourrait être à gauche et à droite de toi quand tu seras sur le trône? » De quoi ils se préoccupent, eux? Ils s'accrochent toujours à la vie parce qu'ils ont du mal à comprendre comment ce passage de l'évangile va permettre de mourir et de vivre à nouveau. Comment les échecs les plus grands qu'une vie humaine puisse subir vont être transformés en victoire. Ils veulent s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à l'espoir qu'ils vont être puissants, à la puissance. Mais je suis désolé, si vous vous préparez au pouvoir, vous n'êtes pas encore un petit enfant. Un petit enfant, selon Jésus, c'est quelqu'un qui ne va pas s'accrocher au pouvoir, qui va être prêt à lâcher le pouvoir pour servir Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va les préparer à nouveau. Et quand ils vont dire à nouveau qu'ils ne sont pas prêts, alors, par rapport au jeune homme riche, j'ai oublié, c'est qui c'est Laurence, le verset 27 ? C'est Yvonne, tu pourrais nous lire le verset 27 ? Merci. Alors, je dois donner le contexte, j'aurais dû le donner juste avant. Les disciples, quand Jésus leur dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, vous avez une idée pourquoi c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Parce qu'il croit avoir une sécurité. À chaque fois que vous avez une sécurité pour la vie éternelle, elle peut être à beaucoup d'endroits. Et les difficultés de la vie vont vous aider à ressentir où vous avez mis votre sécurité. Certaines fois, c'est dans un travail, des fois, c'est dans un couple, des fois, c'est dans un enfant, des fois, c'est dans un parent. Ça peut être à tout plein d'endroits. quand vous avez quelque chose qui vous brise en tant qu'homme, en tant que femme, dites-vous peut-être, là j'avais mis un espoir qui finalement devait être plus grand. Laurence, bonne journée et que le Seigneur te bénisse en réfléchissant, où est mon espoir ? Bonne semaine. Et en même temps, vraiment, chacun de nous, on est à se poser la question, est-ce que j'ai mis mon espoir ailleurs ? Quand on est jeune, quand on a l'âge de Yvonne, ça pourrait être un petit ami. Quand on grandit après, ça sera des époux, des enfants. Suivant les âges, quand on est grand-maman, ça va être les enfants qu'on a eus, les petits-enfants. Et on essaye de se projeter dans le futur, dans la vie. Mais la mort est une réalité à laquelle chacun d'entre nous va avoir à faire face. Chacun d'entre nous, que ce soit Mémé Fillette ou Yvonne, ou chacun d'ici qui sont entre ces deux âges, nous aurons à faire face à la mort. Et Jésus leur dit vraiment, il n'y a aucun matelas qui nous protège de la mort. Il n'y a aucune sécurité dans ce monde. La vraie victoire, elle est dans la relation avec Dieu, dans l'amour et le service. Est-ce que Colline, tu pourrais nous lire le verset 31 ?
Mais beaucoup qui sont maintenant le premier seront le dernier. Et ceux qui sont maintenant le dernier seront le premier.
Vous voyez ce renversement ? Ceux qui ont beaucoup de matelas dans cette vie, ceux qui ont beaucoup de protection, qu'est-ce qui va leur arriver ? Ils vont devenir derniers. Certains vont être sauvés. Jésus ne leur dit pas ils vont aller en enfer. Mais il y a la phrase de Paul qui dit dans l'épître aux Corinthiens, certains seront sauvés comme à travers un feu. Eux passeront, mais tout ce qu'ils avaient autour d'eux va être brûlé. Tout ce qu'ils ont fait aura été inutile. Et on arrive maintenant au chapitre 11, qui est l'entrée à Jérusalem. Vous avez le ministère de Jésus. Donc rappelez-moi la première partie, chapitre 1, 5, c'est quoi déjà ? C'est début du ministère de Jésus, je crois. On a mis début du ministère de Jésus. La deuxième partie, c'est chapitre combien à combien ? 6 à 10. Anton, tu as raison. Ouais. Qu'est-ce que c'est le titre ? Ministère avec les apôtres. Il aide les apôtres à comprendre. Toujours plus, il interagit, leur fait faire du ministère, guérir, chasser des démons. Des fois, ils y réussissent, des fois, ils ne réussissent pas. Mais il les enseigne en même temps qu'ils commencent à avoir un ministère. Troisième partie, ça sera le ministère à Jérusalem. Donc, c'est vraiment les trois premières parties, c'est le ministère. D'abord, le début, après avec les apôtres, ensuite à Jérusalem. Quand il est à Jérusalem, c'est le début de la fin. Et il va entrer dans Jérusalem. C'est à la fois la gloire, Jésus qui rentre sur un ânon, et c'est la préparation de la mort. Quand il entre dans le temple, il se met en colère, Jésus. Il va chasser les marchands et il va dire une phrase qui est importante. Est-ce que Dominique, tu pourrais nous prendre la Bible ? Alors tu vas prendre les versets 22 à 24. Alexandre, tu vas prendre le verset 17 avant toi. Voilà. C'est bon, Juliette, tu vas garder, tu liras après. Alexandre, tu vas nous lire le verset 17, ce que Jésus dit quand il est dans le temple.
Et l'enseigné disait, n'a-t-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
Merci. Le temple était censé avoir un lieu réservé aux Juifs et un lieu où toutes les nations pouvaient venir adorer. Au fil du temps, les Juifs avaient oublié cette partie de leur mission, partie fondamentale. C'était au cœur de la mission depuis Abraham, d'être soi-même une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que Jésus dit, vous devez être serviteurs. Ce n'est pas nous les premiers. Les chrétiens aussi, notre but n'est pas ici. Notre but est de bénir d'autres, d'annoncer la bonne nouvelle à d'autres pour qu'ils aient la vie. Si vous savez que quelqu'un va mourir cette semaine et qu'il va faire un accident, est-ce que vous allez lui dire, prends la voiture et amuse-toi ? Non. Ça serait un manque d'amour évident. De même, nous avons à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, le salut en Dieu, en Jésus. Et le temple était censé jouer ce rôle. Mais les Juifs avaient oublié, ils s'étaient dit, ça c'est pour nous le morceau à l'intérieur, et puis le morceau là où il reste, où c'était censé être pour les non-Juifs, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce que tu sais, Anton, ce qu'ils faisaient avec ? Ils mettaient des marchandises, on vendait des sacrifices pour faire leurs petits sacrifices dans le temple. Donc, ils avaient finalement renié leur mission principale d'annoncer les enseignements de Dieu à toutes les nations. Et ils avaient commencé à se centrer sur eux-mêmes, en croyant que la vie, c'était seulement se protéger en répétant des petites phrases. Dans une église, on peut se dire, on est un petit peu comme un vaisseau qui va se échapper à la mort en se refermant sur nous-mêmes. On va être entre nous, on va être partie du club, on a notre carte, on est justifié, on est sanctifié, et puis on vit entre nous, on s'entraide, on prie les uns pour les autres, c'est bon. Je suis désolé. Ça ne marche pas comme ça. Si on faisait comme ça, Jésus dirait, où est l'amour pour ton prochain ? Comment est-ce que tu montres ton amour si tu te replies sur toi-même, sur ta petite communauté ? Toute communauté qui se replie sur elle-même va mourir. Et cette mort n'est pas à la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions d'une vie qui déborde dans une attitude de serviteur. Et Jésus, pour cela, va leur parler ensuite de la foi. Comment la foi permet de transformer ? Est-ce que Dominique, tu pourrais nous lire les versets 22 à 24 ? Et Jésus les mentionne juste après qu'il ait dit à un figuier qui ne porte pas de fruits, sois maudit, tu ne portes pas le fruit que tu devais, donnant un parallèle avec le peuple d'Israël qui devait porter du fruit auprès des nations, et il a maudit le figuier. Ce figuier va dessécher, et ensuite Jésus va enseigner ses disciples. Est-ce que Dominique, tu peux lire les versets 22 à 24 ?
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
Pourrais-tu lire le verset 25 aussi ?
Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans le ciel, vous pardonne aussi vos offenses.
Merci. Vous voyez comment le pardon est lié à la puissance de la prière ? Qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas ? C'est comme si on avait créé une chaîne avec quelqu'un dans ce monde. Même si quelqu'un vous a fait du mal, vous savez quoi ? Cette personne va mourir et aura à rendre compte de ses actions. Si vous refusez de pardonner, c'est comme si vous gardez une chaîne attachée à la personne. Vos pensées seront marquées par la personne, vos comportements seront marqués. Là où ira la personne, vous irez avec elle, dans l'amertume. Et si vous voulez vous élever dans la foi et avoir une rencontre et une vie avec Dieu, le pardon est important. C'est une des marques du serviteur, de dire, vous m'avez fait du mal. Se distancer d'une personne qui fait du mal, oui. Ne pas lui pardonner, non. Et c'est là que Jésus dit vraiment, le pardon, c'est une façon de dire, je crois à cette vie éternelle. Je me détache de cette vie temporaire. J'accepte que finalement je me prépare pour la vie éternelle. Et c'est là qu'on est en train de faire le passage. On dit, ok, cette personne m'a fait du mal, mais cette personne, un jour, elle va mourir. Et moi, je ne veux pas être du côté de celui qui détruit, de celui qui va accuser. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu me pardonne mes fautes et que je sois renouvelé dans la relation avec lui. C'est bien plus important. Cette vie, elle est temporaire. Je peux mourir demain, vous pouvez mourir demain. Vos rêves les plus grands peuvent être écrasés demain. Mais en Jésus-Christ, il y a un espoir éternel. Et c'est ce que Jésus va essayer d'expliquer à ses disciples pendant tout ce temps. Après avoir parlé de la foi, comment se préparer à la vie éternelle par la foi, par le pardon. Ensuite, il va y avoir les controverses où Jésus va parler du jugement de Dieu, va parler de la liberté face à la mort dans la résurrection, va mettre en garde contre des enseignements qui ne sont pas justes. Ensuite, toujours par rapport à cette question de mort, les disciples, ils essayent de s'accrocher à quelque chose. On essaye de s'accrocher toujours à quelque chose dans ce monde qui va tenir. C'est quoi une chose auquel les disciples vont essayer de s'accrocher ? Le temple. Ce temple, pendant 45 ans, il avait été construit. Il était tellement beau, il avait été recouvert d'or. Ça fait que si on entrait par une certaine porte, le soleil se levait à l'est, il y avait la porte à l'est. Quand vous entriez à l'est, à Jérusalem, le matin, le soleil se reflétait dans les murailles d'or. C'était une vision grandiose. Vous aviez l'impression que vous alliez entrer dans le soleil, que vous alliez entrer en contact avec le soleil. Ça brillait, vous ne pouviez même pas regarder, ça vous éblouissait tellement c'était grand le matin. Vous imaginez ça? Un bâtiment brillant de plusieurs dizaines, je ne sais pas, ça faisait peut-être une centaine de mètres de large, plusieurs dizaines de mètres de haut, qui brille partout, qui vous reflète le soleil. Vous devez entrer en baissant les yeux pour pas avoir les yeux qui vous font mal. Les disciples disent à Jésus, juste après avoir eu cette expérience le matin en rentrant dans le temple, Jésus regarde ce temple. Et qu'est-ce que dit Jésus? Je vous préviens, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple, cette génération verra ce qui va s'accomplir. Jésus est en train de dire, en moins d'une génération, ce que vous considérez indestructible, une base forte d'espoir, quelque chose dans lequel vous pourrez investir votre espoir en vous disant, ça va traverser la mort. Eh bien, cette chose extraordinaire va être détruite. Et Jésus va continuer à les enseigner, à les préparer à sa mort. Est-ce que, Yvonne, tu pourrais passer, au graphique suivant? Toujours cette traversée de la mort que les disciples ont tant de mal à préparer et entrer. Tu as été en arrière et pas en avant. Est-ce que tu pourrais... Encore un? Voilà. Victoire sur la mort. Ça va être plus spécifiquement la victoire de Jésus sur la mort. À ce moment-là, à travers son sacrifice, et il est mort comme un serviteur, Jésus, il n'a rien retenu. Mais comme il n'a rien retenu, il n'a rien en commun avec le péché. Comme il n'a rien en commun avec le péché, la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est le pouvoir de la mort sur nos vies? Le pouvoir de la mort sur nos vies, c'est le péché. C'est le mal qu'on a fait, qu'on a voulu aux autres, qu'on en veut aux autres, toutes ces racines d'amertume qui détruisent les autres, mais qui nous détruisent aussi, qui peuvent nous rendre coléreux, qui peuvent nous rendre amers, qui peuvent nous rendre durs, et qui nous empêchent de nous détendre dans la présence de Dieu et de redevenir comme des enfants qui vont se préparer à un avenir fait de lumière et d'espérance par la foi en Jésus-Christ. Premier point, le chapitre 14, la fin du ministère à Jérusalem. Tu peux passer au chapitre suivant. Jésus va faire quoi? D'abord, une femme va oindre sa tête. Est-ce que, Juliette, tu pourrais lire le verset 3?
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'alabastre qui renfermait un parfum de nard pur de camphre. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus.
Merci. Réfléchissez bien à ce que cette femme vient de faire. Jésus dira après, cette femme savait que c'est pour ma sépulture, pour ma mort. Jésus va mourir. C'est pour plus, quasiment tous ses disciples, l'échec complet de sa vie. L'échec complet de l'espoir de tous les disciples. Le plus grand projet qu'ils ont eu dans leur vie, eux, c'était de finalement transformer ce monde avec Jésus. Jésus est en train de leur dire, je vais mourir. Il les prépare à comprendre quel type de victoire il va vaincre et que ce n'est pas une victoire comme eux espéraient. Et que fait cette femme? Elle prend ce qui est le plus important, ce qui est le plus cher dans sa vie, ce parfum qui doit être peut-être un héritage, quelque chose de précieux qui est le plus précieux dans sa vie. Elle fait quoi? Elle le casse. Elle le casse pour la mort de Jésus. Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Il va mourir? À quoi ça sert? Certains des disciples vont même la critiquer en disant « Elle est complètement folle, cette femme. Au moins, elle aurait pu vendre ça pour des pauvres. À quoi ça sert de se préoccuper de la mort ?» D'abord, ils n'aiment pas se préoccuper de la mort de Jésus. On n'aime pas penser à la mort. Mais en plus, elle dépense tout son argent pour la mort. Non, elle ne dépense pas tout son argent pour la mort. Elle est une de celles qui commence à penser que la mort de Jésus n'est qu'une étape. Et Jésus dira « Après, que je sois revenu, on racontera cette histoire pendant toutes les générations. » Et on l'a mise dans les évangiles, dans trois évangiles, quatre évangiles sous des formes différentes, pour qu'on s'en rappelle. Une femme, en temps de Jésus, une femme n'est pas une personne considérée comme un témoin. Dans un procès, c'est pour ça que Les femmes, quand elles vont témoigner de la résurrection de Jésus, on ne les croit pas. Les femmes ne sont pas considérées dans un procès comme pouvoir témoigner. Vous savez, dans la culture française, à quel moment les femmes ont eu le droit d'être témoins dans les procès ? Tu dirais quoi ? Il y a un peu plus de 100 ans, je crois. En tout cas, c'est après la Révolution française. Il y a au plus de 100 ans. Je crois qu'il y a à peu près une centaine d'années que les femmes ont le droit de témoigner dans des procès. Détail important à retenir. D'où la raison pour laquelle les 12 témoins, les 12 apôtres, devaient être des hommes. Et dans certaines épîtres, on voit qu'il y a eu des femmes, comme Junias, qui était apôtre aussi, mais pour témoigner, ça devait être des hommes. Parce qu'une femme n'aurait pas été acceptée pour, dans un procès. Néanmoins, cette femme va verser sur la tête de Jésus ce parfum de nard pur, va lui donner ce qu'il y a de plus précieux, et elle est une des premières à commencer à voir que l'échec ultime de Jésus, cette mort, cet écrasement par ses ennemis, n'est que le début de la victoire. Et on va voir au verset 22 et 24 comment Jésus prépare ses disciples. Pierre, tu pourrais nous lire les versets 22 à 25 d'ailleurs. Du chapitre 14. 14, versets 22 à 25.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il leur rompit et leur donna en disant : Prenez ceci et vous boirez. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai.
Où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Donc Jésus dit, prenez, je vais me sacrifier, je vais mourir, mais après ma mort, il y a résurrection, je vais être auprès de mon Père. Il est en train de leur dire, ne vous y trompez pas, mon échec le plus grand va être la plus grande victoire. Et dans vos vies, là où il y aura les plus grands échecs, c'est là où Dieu pourra faire pousser les fleurs les plus belles. Ne vous y trompez jamais. C'est là où il y a les choses les plus douloureuses de vos vies, où Dieu pourra faire pousser des choses extraordinaires, mystérieuses et étranges, qui pourront porter du fruit dans la vie éternelle. Pensez à David, son plus grand échec, qu'est-ce que ça a été ? Son plus grand échec, c'est quand sa vie était vraiment la vie d'un grand serviteur de Dieu qui avait tout réussi, et sa vie va se casser, va casser toute sa famille à un moment donné. Il va tromper, il va coucher avec une femme qui est déjà mariée, tuer un homme, mentir, et son fils qui est né de ce mariage va mourir. Échec à tous les niveaux, qui va être une honte pour lui, qui va être un mauvais exemple pour tous ses fils. Amnon et Absalom vont se détourner de Dieu et leur orgueil, et même Adonias, on peut dire, c'est directement lié à ce péché de David. David est brisé. Dans la Bible, un des psaumes les plus beaux, c'est quel psaume ? Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand la mort est sur moi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Même quand je suis en face de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand ma vie est détruite, mes espoirs sont détruits, je ne crains aucun mal. Un autre psaume très connu de David, c'est celui exactement par rapport à cet échec, cette destruction dans sa vie, qui est le psaume 51, où David parle de la joie d'être pardonné par Dieu, d'être renouvelé et de retrouver finalement vie avec Dieu. Et le chapitre 14 va avoir quelques versets très importants. Est-ce que tu pourrais nous lire, Sandrine, les versets 33 à 36 ?
Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit : Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Il fit quelques pas.
Au chapitre 15.
Tombé. Pardon.
Pardon. Tu allais très bien, je te demande pardon pour le.
Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible.
Je continue 36. 36 aussi, ouais.
Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux.
Amen. Merci. Si vous avez des échecs dans vos vies, Dieu ne vous demande pas de dire « c'est extraordinaire, ce n'est pas important, c'est facile ». Quand on a un échec, on prie, on demande à Dieu de nous aider. Mais en même temps, on a à se rappeler de la parole de Jésus. Cependant, je ne sais pas tout. Ce qui nous semble des échecs dans nos vies, Dieu peut les utiliser, même si ça n'est pas compréhensible. Et Jésus va dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». Nous sommes rapides à croire que quand il y a quelque chose de difficile, rien de bon ne peut en sortir. Je vais vous répondre d'une façon très simple, c'est simplement du manque de foi. C'est du manque de foi de croire que de la souffrance, Dieu ne pourra pas faire sortir des fleurs. C'est ce qu'il a fait avec Jésus, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples à travers toute l'histoire de l'Église, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Je pourrais vous dire, une des plus grands échecs de ma vie, je haïssais l'école. J'avais été humilié à l'école. L'école était un lieu horrible pour moi. Qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu m'appelle à être un enseignant. C'est fou, c'est absurde. Mais ça, c'est l'évangile de Jésus. Ça, c'est l'évangile de Jésus qui touche dans nos vies. Et dans vos vies, je vous invite à découvrir cette puissance de l'évangile. Là où il y a eu les plus grandes souffrances, de voir comment Dieu veut faire pousser des fleurs qui vont vous surprendre. Et de ne pas croire que parce qu'il y a mort, qu'il y a destruction, la vie de Jésus ne peut pas transformer cela. C'est du manque de foi. Il n'y a qu'un mot pour ça, c'est du manque de foi. Et nous avons à croire, je ne vous dis pas cassez vos vies, je vous dis battez-vous pour ce qui a de la valeur. Mais si un échec ne dépend pas de votre volonté et vous ne pouvez pas l'éviter, regardez à Dieu et demandez à ce que ses fruits viennent. C'est ce que Jésus est en train de faire et il nous montre le chemin. Lui qui est notre exemple. Ensuite, il va être emprisonné, il va être amené au grand prêtre et il se laissera humilier, se laissera mépriser. Ses disciples fuient, son premier disciple, Pierre, qui avait dit « je ne te laisserai jamais », va le renier trois fois. Et le chant du coq va rappeler à Pierre les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a besoin de faire ? Il a besoin de montrer que les disciples, tant qu'ils croient réussir par leur force, ils vont être brisés, ils vont être détruits, ils vont échouer. Le but de Jésus n'est pas d'humilier ses disciples. Son but, c'est de les enseigner, de leur montrer comment par ses propres forces, les disciples ne pourront pas faire ce passage de la mort à la vie. C'est seulement par la foi qu'ils vont le faire, par une foi paradoxale, une foi qu'en étant serviteur, on va devenir des seigneurs dans ce monde. En étant serviteur, on va devenir des maîtres. Avec une autorité et une puissance sur la mort, sur le péché et sur la mort. D'abord dans nos vies, pour être vainqueur du péché, ensuite dans les vies des autres. Dieu voudra qu'on puisse bénir d'autres, amener d'autres à la vie. Des fois, ça sera en priant pour qu'il y ait une guérison. Des fois, ça sera en annonçant l'évangile. Ça, c'est la victoire que Dieu veut. Est-ce que, Anton, tu peux passer au chapitre 16 ? Chapitre 15, pardon. Ensuite, Jésus va être humilié à nouveau. On va lui mettre une couronne d'épines. On va lui mettre une robe pourpre. Les rois, c'est ceux qui sont les plus protégés dans ce monde. Ceux aux qui on ne peut pas faire de mal. C'est ceux qui disent qui va mourir, les rois. Les rois, c'est ceux qui disent « Toi, tu ne me plais pas, tu peux mourir. » À l'époque, vous savez comment ça marchait quand on venait devant un roi, comment ça se passait devant un roi ? On arrivait. D'abord, il ne fallait jamais relever la tête, il ne fallait pas regarder au roi. Vous vous mettiez allongé par terre et vous attendiez que le roi vous dise « soit relève-toi, soit va-t'en, soit je veux que tu meurs ». Quand vous veniez auprès du roi, c'était le roi qui avait droit de vie ou de mort. S'il vous relevait la tête, comme ce qui se passera avec la reine Esther quand elle viendra auprès du roi, alors vous aviez le droit de vivre. S'il n'est pas content, il vous met à mort. Le roi est celui qui a droit de vie ou de mort. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui va tuer qui ?
C'est le roi qui va tuer le roi.
Les soldats vont être ceux qui vont tuer celui dont il se moque comme roi. Ils lui disent, t'es le roi des Juifs, celui qui met à mort ce qu'il veut. Nous, on va te mettre à mort. Tu vas voir. Première humiliation, on va s'amuser à faire croire que t'es un roi en te faisant souffrir. Une couronne d'épines qui le blesse, au lieu d'être un signe d'honneur, signe de douleur. Et on continue. On amène Jésus à la croix. Dans la moquerie et l'humiliation, il sera crucifié. Anton, est-ce que tu pourrais nous lire les versets 34 à 39, s'il te plaît?
Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Voici la Galilée !» Et l'un d'eux courut remplir une ponche de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, et en disant, « Laissez, voyons s'il viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le sentier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu.
Merci Anton. Vous voyez les humiliations, Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il sent qu'il entre dans la mort, Jésus, il n'a plus de. Ses émotions sont tellement douloureuses à travers la souffrance qu'il ne perçoit même plus la présence de Dieu. Dans nos vies, parfois, il y a des souffrances tellement fortes qu'on a du mal à percevoir la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, c'est une perception. Et même le Fils de Dieu a eu cela. Mais ce qu'il dit, c'est aussi le début d'un psaume qui a été écrit par qui? Par un roi, David. C'est le psaume 22. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est le début du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui commence par l'humiliation, la souffrance et la destruction et qui finit par l'expérience du salut de Dieu, comment Dieu, face à cette humiliation, est en train de relever celui qui écrit le psaume. Et Jésus ne finira pas ce psaume. Il l'a commencé sur terre, il va le finir au ciel, ce psaume. Parce qu'il va ressusciter et il se prépare déjà à ce passage. Parce qu'il sait qu'il n'a pas péché, que la mort n'a aucun droit sur lui. Et vous êtes appelés à être libérés du péché, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, pour que la mort n'ait plus aucun droit sur nous. Et qu'elle puisse nous embêter, nous chahuter pendant quelques heures, mais que seulement pour un temps. Pour que Dieu puisse nous donner cette vie éternelle qu'il nous promet. Et cette vie éternelle n'est pas secondaire, c'est le fondement de notre espoir chrétien. Et Jésus s'y prépare et donne sa vie, comme un esclave, comme une personne méprisée. Certaines fois, nous avons une vie chrétienne où on se dit « Jésus, il est mort pour moi, mais ça, je n'ai pas besoin de le vivre ». Oui, vous n'avez pas besoin de mourir sur la croix, mais vous allez apprendre votre croix, il y aura des souffrances dans chacune de vos vies qui seront difficiles à vivre, et Dieu vous accompagnera pour découvrir sa puissance au milieu de la douleur, non pas à la place de la douleur, mais au milieu de la douleur. Des femmes vont être témoins de cette mort et vont être les premières témoins de la résurrection. Mais est-ce que l'on croit les femmes quand elles donnent un témoignage dans un procès à l'époque? Est-ce que les disciples vont croire les femmes quand elles vont venir dire ce qu'elles ont vu? Non. La même chose. Cependant, Jésus, il plaira à Dieu de se manifester à ceux qui sont méprisés dans ce monde en premier. Ça va être des femmes qui vont être les premières témoins de la résurrection. C'est elles à qui des anges vont parler. Et ensuite, Jésus, quand il apparaîtra aux disciples, c'est pour les corriger. Les corriger pour leur manque de foi. Parce que Jésus se révèle dans la petitesse auprès des serviteurs, des enfants, de ceux qui sont fragiles. Et nous sommes appelés à devenir fragiles avec Dieu pour découvrir la puissance de l'Évangile. Est-ce que, Yvonne, tu pourrais nous lire les versets 6 à 7 ? Chapitre 16, versets 6 à 7.
Celui qu'on a cloué sur la croix, il est celui qu'on a, est revenu de la mort à la vie, il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où l'on l'avait posé.
Merci Yvonne. Les anges leur disent, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il n'est pas là. Il vous l'a dit. Il vous l'a déjà dit. Pourquoi vous venez chercher un corps? Il est parti. Et finalement, ça y est, la victoire de Jésus est en train de se faire. Ce qui était quasiment incompréhensible pour les gens de l'époque devient une réalité avec des centaines de témoins, progressivement. D'abord, c'est des anges, des femmes, et ensuite Jésus va apparaître à des disciples. Est-ce que, Colline, tu pourrais nous lire les versets 19 à 20? Après qu'il est apparu à ses femmes, Jésus à ses femmes, ensuite à deux disciples sur le chemin, après à tous, Jésus va aller au ciel. Colline, tu pourrais nous lire les versets 19 et 20, les derniers versets de Marc?
Après le avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. La Seigneur les a dit dans ce travail et confirmé la vérité de leur prédiction par le signe miraculeux qui l'accompagnent.
Merci Colline. Les signes qui accompagneront. Jésus est en train de dire maintenant, j'ai fini mon boulot, j'ai fini ma part. À vous de maintenant vivre ce que je vous ai enseigné. Et il les laisse continuer. Les disciples ont compris le message le plus important. Le message le plus important de Jésus, c'est qu'il est vainqueur du péché et de la mort. Et qu'il veut qu'on y soit participant de cette victoire. On peut passer des années dans une église et croire que Jésus, finalement, c'est un bon enseignant. Il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens qui vont vous dire « Jésus, c'est un excellent enseignant ». Mais moi, je ne suis pas chrétien, je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela. C'était C.S. Lewis qui disait, quand quelqu'un vous dit comme ça, c'est une grosse bêtise. Vous avez à répondre à la personne. Soit c'est un excellent enseignant et tu viens découvrir la vie éternelle avec Jésus, soit c'est le plus fou de tous qui dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est uni au Père, que le Père est en lui et que lui est en Dieu. Et dans ce cas-là, il ne faut pas que tu le suives, il est un fou allié. Les gens, ils sont mal à l'aise avec l'enseignement de Jésus parce que l'enseignement de Jésus nous dérange. Il nous dérange dans nos façons de vivre, dans nos petites sécurités, dans nos petits problèmes. Jésus, il nous dit, au milieu des plus grandes difficultés que nous vivons, vous avez à découvrir la puissance de l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir l'Évangile au milieu de ces difficultés? Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est des relations dans la famille, avec des enfants, des problèmes de couple brisé, couple en difficulté? Est-ce que c'est avec des parents difficiles? Est-ce que c'est au travail, des choses qui vont pas? Est-ce que c'est des questions d'argent? J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est l'Évangile qui est au cœur de cela? Ou est-ce que c'est votre cœur qui est encore maître et qui est encore prisonnier de la mort? Parce que quand nous sommes maîtres de notre vie, nous nous avançons vers la mort. Et c'est en étant libre de ses péchés en disant « Seigneur, j'accepte ces défis, que ta volonté soit faite. » Nous commençons à découvrir la puissance de Dieu. J'aimerais vous demander de me rappeler, alors, est-ce qu'Anton, tu pourrais cacher le graphique? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va refaire un tour. Qu'est-ce que c'est la première partie, tous ensemble, c'est quoi la première partie de Marc?
C'est le début de
ministère. J'ai mal entendu, c'est quoi le début?
Le début du ministère.
Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, la deuxième partie?
Ministère.
Ministère
de Jésus.
D'accord.
Avec son disciple.
Quel disciple en particulier? Avec les apôtres, avec les douze. Donc la deuxième partie, c'est ministère avec les apôtres. Il n'envoie pas les autres encore. Ça mettra plus de temps avant qu'il envoie d'autres. Donc deuxième partie, vous pouvez répéter ensemble, c'est comme un jeu, acceptez. Deuxième partie, ministère avec... Ensuite, la troisième partie, qu'est-ce que ça va être? D'accord. Et la dernière partie? Ok. Sandrine, c'est quoi les chapitres et la deuxième partie? Donc tu me dis les chapitres
6 à 10, ministère avec les apôtres.
Ok.
Anton, la dernière partie.
13 à 15, victoire sur l'ennemi.
13 à
15. Non, 14 à 16.
Bien. 14 à 16, victoire sur la mort. Très bien.
Deuxième moitié, c'est 6 à 10. Uh-huh. Et c'est le mystère de Jésus avec ses apôtres. Pierre.
C'est bon, tu réponds.
C'est Luc.
C'est une bonne question. Hein. Non, mais c'est une bonne question.
La deuxième partie.
Alors, la deuxième partie, c'est le ministère avec les apôtres. Et ça va de 6 à 10.
Alexandre, combien de parties, s'il te plaît?
La partie, c'est le début du ministère de Jésus.
On laisse mes fillettes de côté? Oui. Alors, voilà, ministère à Jérusalem, chapitre 11 à 13. On va finir par un temps de prière. Et ma question est toute simple. Est-ce que vous avez accueilli l'Évangile? Est-ce que vous avez accueilli la bonne nouvelle de Jésus dans votre vie? Dans les premiers siècles, quand les gens accueillaient la bonne nouvelle de Jésus, ça voulait dire qu'ils allaient risquer d'être mis à mort. Ça voulait dire qu'ils risquaient d'avoir leur famille détruite, leur champ brûlé, leur maison volée. Ils risquaient leur vie. Est-ce que l'Évangile de Jésus, vous voulez l'accueillir plus que les victoires de ce monde? Est-ce que vous voulez avoir la victoire sur la mort? Est-ce que vous êtes prêt pour cette étape à la vivre dans vos vies? Parce que moi, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse voir comment Jésus est puissant au milieu de nos situations. On aimerait bien que quand Jésus, on l'accueille, ça soit des victoires dans ce monde. Et on oublie que notre Seigneur est un Seigneur crucifié et ressuscité. On oublie que finalement Jésus nous a montré un autre chemin, un chemin de vie dans lequel rien ne peut nous être fait qui va nous détruire et nous écraser. Rien dans ce monde ne peut nous détruire si nous nous accrochons au vrai évangile de Jésus-Christ, qui est sa promesse de vie éternelle pour ceux qui se détournent du péché et qui accueillent l'évangile pour traverser la mort, traverser les échecs et les destructions que ce monde ne manquera pas de faire dans nos vies. Prions ensemble et je vous invite à répondre dans votre cœur au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as eu bien du mal à expliquer à tes disciples que tu allais vaincre la mort, que ta victoire n'était pas dans ce monde, que ta victoire n'était pas d'être un roi comme dans ce monde, que ta victoire, ce n'était pas une question d'avoir du pouvoir, mais d'être serviteur et de se préparer à avoir un trésor spirituel, à avoir une autorité en toi qui allait avoir un certain impact ici, mais qui n'empêcherait pas les souffrances. Mais une victoire que nous préparons dans ce monde pour la vie éternelle. C'est comme si nous étions à l'école dans ce monde, où il y a des cours agréables et d'autres désagréables. Mais avec toi, Seigneur, nous voulons nous préparer à cette victoire sur la mort. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Je prie pour moi. Apprends-nous, Seigneur, à vivre cette victoire dans nos vies de tous les jours, afin que l'amertume ne gagne pas, afin que la mort ne gagne pas, mais que ta vie, la vie éternelle, puisse se répandre, que nous puissions entendre ta voix, vivre dans ta présence, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Guide-nous en ces quelques minutes, Seigneur, guide chacun de mes frères et sœurs dans les combats qu'ils vivent, pour que ton nom soit glorifié, que ta victoire se fasse manifeste. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu connais chacun de nos combats, tu connais chacune de nos tristesses, de nos douleurs, de nos échecs, de nos espoirs. Tu nous invites à marcher avec toi et à ce que notre plus grand espoir ce soit toi, afin que rien ne puisse nous détruire, afin que comme toi, Seigneur, nous puissions traverser la mort, à ta suite. En étant ton frère ou ta sœur. Je prie pour que tu nous donnes cette victoire en tant que petite communauté, en tant qu'individu, que chacun de nous puissions vivre la joie de cette transformation, d'être libre de la mort, libre de nos chaînes qui nous enchaînent chaque fois que nous mettons dans ce monde notre cœur et que nous pouvons développer l'amertume parce que ce qu'on a voulu faire n'a pas marché. Mais toi, tes plans, Seigneur, rien ne pourra les arrêter. Et ton plan, c'est de nous préparer à la vie éternelle, de faire de nous des êtres remplis de ton amour, de ta vérité, de ta sainteté et de ta grâce. Prépare-nous, Seigneur. Apprends-nous, Maître. Amen.